BFM Business, Focus Retail, Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur BFM Business pour votre émission Focus Retail. Et aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir des centres commerciaux. Ont-ils encore une place dans le paysage français? Faut-il repenser entièrement leur modèle? C'est en tout cas l'ambition de la compagnie de Phalsbourg qui inaugure cette semaine un tout nouveau projet d'envergure entre prêt-à-porter, loisirs et restauration. Quels sont les ingrédients de ce nouveau retail park nouvelle génération? C'est ce que viendra nous expliquer Philippe Journeau, son président fondateur. Et puis dans une logique de commerce de plus en plus digitale, de nouvelles solutions émergent. C'est notamment le cas de La Vitre, une start-up qui permet aux vendeurs d'être présents virtuellement dans différents points de vente. Son fondateur, Romuald Boulanger, sera avec nous sur ce plateau. Allez, restez là, Focus Retail, c'est maintenant.
Focus Retail, l'interview.
J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Philippe Journeau. Bonjour, bienvenue sur BFM Business. Alors, vous êtes le président fondateur de la compagnie de Phalsbourg. Sur ce plateau, également notre expert retail cette semaine, c'est vous, François Valadas, directeur des solutions à Data France de Vusion. Alors, la compagnie de Phalsbourg, c'est un groupe immobilier dont les activités sont très diversifiées, mais dont l'essence reste les centres commerciaux, les retail parks, les villages de marques. Vous vous êtes spécialisé dans des concepts à ciel ouvert, notamment, qui combinent à la fois commerce, restauration, loisirs et espaces verts. Comment est-ce que vous vous définissez en deux mots, Philippe Journeau?
Je me définis comme quelqu'un qui essaye d'apporter le meilleur possible à ses clients au moment où il fait. Parce que dans le retail, le plus important, c'est le client. Et le plus important, c'est d'essayer de lui apporter ce qu'il attend. Et même parfois, ce qu'il ne sait pas qu'il attend. Et donc, nous avons créé en 2012 l'Atoll à Angers, qui fait 95 000 m² et qui a un peu révolutionné le métier des retail parks, en créant un parc de restauration au milieu, avec des principes qui sont intangibles, avec une architecture exceptionnelle, une écologie exceptionnelle, un bien-être pour les clients et surtout une sécurité exceptionnelle. Ce soir, nous ouvrons un site Valvert en région parisienne, 182 caméras. Voilà. Et évidemment, la sécurité, un digital exceptionnel.
La sécurité est placée à un point important. Alors justement, on va parler de ce nouveau projet. Ouais. Valvert Croix-Blanche, que vous inaugurez dans l'Essonne, donc au sud de l'Île-de-France. 65 000 m² de surface commerciale, un investissement de 165 millions d'euros. C'est un projet ambitieux à l'heure où justement la tendance n'est plus à la création de nouveaux espaces.
Effectivement, ça fait partie des derniers très grands projets français. Il faut savoir que c'est une compétition que nous avions gagnée en 2013, il y a eu des recours, etc. etc. Et c'est justement la problématique actuelle du commerce, c'est-à-dire que vous avez des recours partout, tout est compliqué, et donc du coup le commerce physique n'a pas le temps d'évoluer et de s'adapter à toute vitesse comme peut le faire le commerce digital où en une journée vous changez une page d'accueil, vous changez plein de choses. Dans le commerce physique, il faut demander plein d'autorisations, tout est complexe, etc. etc. Et pour vous dire, nous avons gagné ce concours en 2013, on est en 2026, on va l'ouvrir ce soir.
Donc ça a pris un peu plus de 10 ans à ouvrir. Ce n'est pas une création, j'insiste bien, c'est une transformation, c'est une extension d'un centre commercial déjà existant.
Alors, il y avait initialement la zone commerciale de la Croix-Blanche, qui est la zone dominante du sud de la région parisienne, et qui est très historique parce que beaucoup d'enseignes sont venues se tester à cet endroit. Pourquoi ? Parce qu'il y a 65 ans, la distribution moderne avec Carrefour a démarré à Sainte-Geneviève-des-Bois, puisqu'il y avait le Carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et donc, c'était une zone industrielle qui est devenue une zone commerciale, et nous intervenons là-bas depuis 1998, et on a transformé, je dirais, toute une rue. Et à un moment donné, on a voulu appliquer notre vision du commerce de demain. Et là, ce soir, vous allez voir quelque chose que personne n'a vu en France, mais vraiment personne n'a vu en France.
Alors, expliquez-nous un petit peu. Aujourd'hui, le shopping se vit, d'après vous, complètement différemment. C'est ce que vous avez justement mis en place, puisque vous avez des commerces, des loisirs, de la restauration. Ça, c'est un peu basique, mais vous allez quand même au-delà, vous insufflez des nouvelles tendances avec de l'escalade, un parc d'attractions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez créé?
Oui, tout à fait. Nous sommes les gens qui avons fait passer le retail, en particulier les retail parks, du transactionnel à l'expérientiel. On a dit, les gens, ils vont vouloir autre chose que simplement rentrer dans un magasin, acheter quelque chose. Ils vont vouloir passer un bon moment. De préférence entre amis ou en famille. Et de préférence en grande sécurité. Et donc, nous avons travaillé sur des très grands espaces. Valvert, c'est 11 hectares. C'est connecté à la zone de la Croix-Blanche, puisque à 200 mètres, les autres magasins nous appartiennent. Donc, on crée des navettes pour aller de l'un à l'autre. Et c'est totalement sécurisé. Il y a à la fois du retail avec les toutes meilleures enseignes actuelles. Nous ouvrons ce soir le premier Lefties de France qui appartient à Inditex. C'est un vrai événement. Je peux vous dire, j'ai vu le magasin, il est totalement exceptionnel. Nous allons y accueillir, par exemple, Aromazone, alors que dans ce type de site, ils ne viennent pas d'habitude parce que la qualité du site l'impose. Mais nous allons également avoir un outlet. On va par exemple ouvrir le RH à Outlet. RH a ouvert aux Champs-Élysées. Leur outlet européen sera chez nous à Valvert. Mais pas que ça. Nous aurons 20 restaurants. Nous aurons un lac avec des shows aquatiques un peu comme à Las Vegas et à Dubaï. Donc c'est un peu presque un anachronique dans ce paysage, je dirais, de banlieue. Et je peux vous dire que les shows sont d'une très grande qualité. Nous avons un jardin des sculptures avec des œuvres d'art de première qualité. Et nous avons bien sûr du loisir avec la tête dans les nuages, vous l'avez dit, un mur d'escalade, mais également une innovation qui va être ouverte vers la fin d'année qui s'appelle la forêt des dinosaures, parce que le site est tellement grand qu'il y avait deux bois qu'on ne pouvait pas toucher. On s'est dit, on va faire quelque chose pour tout le monde, en fait. Et on a acheté 85 automates géants de dinosaures, donc c'est quelque chose d'assez original. Donc tout ça, ça fait que les gens vont venir passer une belle expérience en famille.
Alors justement,
en sécurité.
Justement, vous parlez d'expérience en famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus une virée shopping de 2 heures. Là, on peut pratiquement y passer la journée, finalement. C'est ça que vous recherchez?
On espère bien que vous allez y passer la journée.
Ce que vous espérez, c'est quoi environ? C'est une moyenne de temps de combien d'heures?
On pense que les gens vont rester à peu près 4-5 heures chez nous. Quand vous allez dans un centre commercial classique, les gens restent une heure et demie, maximum. Là, c'est tellement grand, il y a tellement d'attractions, entre guillemets, qu'on pense que les gens vont y passer plus de temps. Mmh. Et je vais vous dire, qu'ils achètent pas, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient bien.
Et alors, je veux juste revenir sur la mode quelques instants. Vous dites donc de nouvelles marques, effectivement. Qu'en est-il des marques plus moyenne gamme qu'on voit, qui souffrent énormément en ce moment? On va reparler avec François dans quelques instants de Minelli. Mais qu'en est-il de ces marques-là et quelles sont les locomotives aussi en ce moment?
Alors, dans la plupart des grands sites commerciaux, il y a une locomotive qui est Primark. Ici, Primark n'est pas, c'est son concurrent direct. Et je répète, c'est la filiale d'Inditex, donc du groupe Zara, qui va s'installer avec un concept, mais fantastique. Mais vous avez dans ce site, vous avez le dernier concept de Mango qui s'est vraiment réinventé. Vous avez le dernier concept de H&M, vous avez du discount, vous avez du Action, vous avez du Smith Toys, vous avez du Intersport, etc., etc. Et nous, on aime ça. On aime apporter à la fois du bien-être pour nos clients et du pouvoir d'achat. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes ces marques apportent du pouvoir d'achat à nos clients, en fait, en réalité. Donc, il n'y a pas de fatalité. Je peux vous dire que dans aucun métier, il y a une fatalité.
François.
Quelle est la place du digital dans cette expérience proposée aux consommateurs?
Alors, chez nous, il est partout.
Sachant que oui, vous avez mis en place exactement avec Wishibam, notamment dans The Village. Ouais. Aujourd'hui, ça va être déployé aussi dans ce point de vente?
Pas dans les 6 premiers mois, parce qu'il faut rentrer dans les systèmes des enseignes, etc., etc. Mais évidemment, toute notre batterie digitale, c'est-à-dire toute la fidélisation, il y a des capteurs dans tous les sens.
D'accord.
Tout ça, en fait, on fait des lieux intelligents grâce au digital. Donc, le digital est réellement partout dans nos sites.
Et on parlait du dernier site français. Quelles sont vos ambitions à l'international par rapport à ce type de projet?
Écoutez, nous sommes allés en Espagne, on s'est planté. Donc, on adore la France.
14 projets, hein, c'est ça, majoritairement des centres. Alors, vous appelez pas ça des centres commerciaux, mais des retail parks. Vous êtes aussi présent sur des hôtels. Quels sont vos prochains projets?
Alors, on travaille sur beaucoup de choses, mais historiquement, compagnie de Fastbourg, c'est le retail. Et c'est le retail, ce que j'appelle infrastructurel. Je m'explique. lorsque vous achetez lorsque vous êtes investisseur et que vous achetez un magasin dans une rue, vous faites de l'immobilier commercial. Lorsque vous achetez la rue, vous faites une infrastructure. Et nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on cherche des sites très grands sur lesquels on puisse apporter toute notre batterie. On a des influenceurs dans le groupe. On a une influenceuse qui a 500 000 followers. On a toute une batterie de gens qui travaillent pour faire que la vie des gens, lorsqu'ils viennent chez nous, soit belle. Et qui se fabriquent des souvenirs. Et donc, ça, c'est vraiment notre c'est ce qu'on adore. Par extension, parce qu'on ne peut plus faire des grands projets comme ça en France, les Loisannes, etc., etc. Et donc, du coup, on ne peut plus trop adapter le commerce physique, parce que c'est ça le vrai problème. Pourquoi est-ce que les centres-villes ont souffert? Parce que la structure urbaine des centres-villes ne permet pas de s'adapter au nouveau mode et aux nouveaux besoins.
Oui, mais c'est compliqué d'avoir un espace si grand en centre-ville, finalement.
Oui, bien sûr.
Comment ne pas vider les centres-villes pour justement créer des zones...
Nous l'avons fait. Nous sommes allés à Nice. Nous avons totalement réhabilité le quartier de la gare de Nice avec un projet magnifique qui s'appelle Iconique, qui a eu de très nombreux prix. Je peux vous dire que je ne peux pas vous donner le chiffre d'affaires de Uniqlo, mais je peux vous dire qu'il est énorme. Nous l'avons fait à Antibes. Nous avons acheté 3 rues de commerce dans un nouveau programme et on a tous les commerces de ces 3 rues. Et avec la ville, eh bien, on anime ces commerces. Et comme par hasard, ça marche très bien. Donc, il y a des choses qui sont faisables, mais il faut mettre trop de monde autour de la table. Tandis que dans nos sites, c'est nous qui décidons. Demain matin, quelqu'un de chez moi a une bonne idée, ben on va l'appliquer la semaine d'après.
Oui, mais vous dites que justement c'est compliqué de trouver de nouveaux emplacements. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué et comment vous voyez l'avenir finalement? J'ai vu que vous aviez notamment des difficultés avec le village de Sofia dans les Alpes-Maritimes. Ouais. Ça en est où?
Ben, c'est très attaqué en fait. En réalité, ce qui se passe, c'est que les gens qui vous attaquent, c'est à la fois des gens qui sont des concurrents. Je ne vais pas en citer, mais il y en a en particulier que j'ai bien dans le viseur. Mais également des associations écologiques, etc., etc. Parce que ces centres commerciaux représentent la civilisation de l'automobile. Et donc, c'est devenu sale d'avoir une automobile. Mais en fait, l'automobile, c'était la liberté pour les gens. Et aujourd'hui, demain, elle sera électrique, elle va muter, et il n'y a pas de raison que les gens ne puissent pas aller librement là où ils veulent. De toute façon, tous nos sites, y compris celui-ci, sont desservis par des bus propres, parfois par le tram, etc., etc. Mmh. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir en mode doux et vous pouvez venir en mode, je dirais, personnel. La réalité, c'est quoi? C'est que vous avez une vision globale de la société qui dit, bah, ça, c'est pas bien. Ça pollue, machin, c'est pas bien. Sauf que plan de campagne, c'est 6 000 emplois. Ce soir, on crée 1 500 emplois. À The Village, on a créé 1 200 emplois, dont 400 étaient sortis du RSA. Donc, on fait participer les communautés, en fait, à leur communauté, et en créant des lieux qui sont des infrastructures. La difficulté, c'est de créer des infrastructures, parce que vous n'avez plus les autorisations pour le faire. Donc, Valvert fera partie des derniers très grands projets. Ce qui est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, pourquoi? Parce que justement, ça devient une infrastructure. Le coût pour rentrer là-dedans devient gigantesque.
Il reste quelques secondes, ouais. Philippe Journeau. À quoi vous attendez-vous pour cette ouverture? Vous attendez combien de visiteurs annuels?
Plein.
En projection, vous n'avez pas une idée en regard de tout ce que vous avez?
Entre 10 et 14 millions. N'oublions pas qu'on est à un quart d'heure d'Orly. Qu'on est desservi par la Francilienne, par plein d'autoroutes, etc., etc. Et le site est tellement différenciant que je pense que beaucoup de Parisiens viendront au moins voir ce que c'est.
Merci beaucoup Philippe Journeau. Restez avec nous, on passe tout de suite au focus de notre expert. Alors François, on a longtemps opposé deux mondes, celui du luxe d'un côté et puis le discount de l'autre. Mais aujourd'hui, avec les villages à outlet, eh bien, on se rend compte que cette frontière disparaît peu à peu. Comment est-ce qu'on explique ça?
Ben effectivement, historiquement, on avait même ce qu'on appelait les magasins d'usine, hein, qui portaient bien leur nom. C'était des lieux très fonctionnels, en périphérie. On était vraiment là pour, je dirais, vendre les surplus, les surstocks à bas prix. Donc le concept de faire des affaires, des réductions de 30 à 70% est resté, mais on vient de le voir avec Philippe Journeau, c'est le concept marchand qui a complètement été transformé avec des lieux de destination, des lieux de vie. On a bien sûr toutes les grandes marques, mais on a aussi de l'expérience de restauration, de l'événementiel, donc des vrais petits villages qui attirent les gens, qui sont des vraies destinations. Et ça marche, votre centre The Village un taux de remplissage de 100%, donc c'est très significatif. Et l'année dernière, c'était plus 9% de chiffre d'affaires, avec pas mal de dimanches en moins.
Pas de vacances commerciales, donc. Philippe nous fait non de la tête. Non. Alors comment est-ce qu'on explique justement ce revirement de situation, François ?
Je dirais qu'on sort d'une période où les grandes marques de luxe ont eu des prix qui ont relativement explosé. Selon Bain, c'est x1,5 à x1,7 depuis la période Covid. Et malheureusement, les budgets des ménages n'ont pas augmenté de la même façon en même temps. Donc ça veut dire plus d'arbitrage. Et ça veut dire aussi que les Français, qu'ils ne veulent pas se priver de ces achats plaisir de grandes marques, eh bien, pour eux, dans ce contexte, les outlets deviennent une destination et un excellent compromis.
En revanche, ce qu'on constate, c'est que les outlets ont réussi à se moderniser. Parce qu'il y avait pas mal d'outlets qui étaient vieillissants. Ça, c'est une réussite pour certains.
Tout à fait. Et en fait, ça doit être vivant, c'est-à-dire que les enseignes, malheureusement, doivent aussi tourner. C'est pas juste une juxtaposition de grandes maisons ou de marques qui doit se faire, mais bien répondre aux aspirations des consommateurs qui, s'ils sont prêts à payer des grandes marques, la collection d'avant, voire celle d'encore avant, moins chère, ont besoin de modernité, d'innovation, et donc passer par des petits créateurs. Et ça se fait très bien dans des boutiques comme Axel Arigato, alors c'est à la concurrence, mais à la Vallée Village, je peux le citer, qui fonctionne très très bien.
Merci beaucoup François pour votre expertise. On passe tout de suite au pitch de notre start-up.
Focus Retail, la start-up.
Et Romuald Boulanger nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, bienvenue sur le plateau de BFM Business. Alors, vous avez cofondé La Vitre en 2019. C'est une solution à destination des retailers. En fait, c'est un écran avec à l'intérieur soit un avatar, soit une personne, une vraie personne. En quoi ça consiste ? Expliquez-nous un petit peu le concept.
Alors, c'est un écran connecté à taille humaine. On va travailler dans le retail. On a trois grosses verticales. En fait, on travaille aussi avec les maisons dans la mode, avec les maisons de luxe et les façonniers, les créateurs, pour toute la phase de confection, normalisation, etc., entre les maisons et les ateliers. On a une verticale santé, où là, on est à Santé Spa en ce moment, pour tout ce qui est téléconsultation.
Donc, vous faites aussi de la téléconsultation?
Exactement. En fait, on a signé un partenariat avec Rofim il y a le mois dernier, pour équiper les lieux médicaux. Gérer les téléconsultations d'une manière un peu plus poussée que ce qu'il y a aujourd'hui. Et la partie hospitalité retail, sur laquelle on travaille de plus en plus, qui nous permet de ramener de l'humain. Là, on a un exemple, on travaille avec un groupe automobile MJ2P qui ont monté une solution qui s'appelle Auto, qui leur permet en fait d'apporter leurs solutions, donc leurs commerciaux, leur parc automobile, dans des petits garages qui n'ont ni force de vente, ni commercial, ni place pour gérer de la vente automobile.
Mais c'est-à-dire que le vendeur apparaît dans l'écran et peut faire de la vente dans un endroit qui n'est pas sa concession.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, ça leur fait des nouveaux points de vente. Donc aujourd'hui, ils ont 8 points de vente comme ça dans des garages.
Itinérants.
Pas itinérants, c'est les garages fixes. En fait, d'accord, là où vous allez faire votre révision, etc., le garagiste que vous connaissez. Qui a un petit lieu qui vous accueille, qui vous permet d'interagir
avec
le commercial, qui permet de créer de la confiance, garder le lien de confiance et qui permet de discuter, de voir ce qu'il veut comme modèle. Il peut lui faire visiter la voiture aussi s'il l'a dans son parc. Et ça permet d'aller jusqu'à la signature du monde commande.
Ah, on peut signer directement sur la vitre en temps réel. Alors, c'est quoi le taux de conversion ? Ça fonctionne ?
Alors, ça fonctionne, oui. On est assez contents parce qu'aujourd'hui, ils ont ils ont un taux de conversion de 33%. Et là, en vitre, ils viennent de dépasser les 40%. Donc, ils ont dépassé en vitre le taux de conversion réel, physique.
François ?
Oui, aujourd'hui, ça doit être quand même quelque chose de très nouveau. Et comment vous arrivez à vous différencier des plateformes de visio classiques, en fait, pour dire voilà la valeur que ça apporte d'être sur la taille humaine ?
Eh bien, en fait, alors il y a deux choses. Il y a la partie expérience utilisateur. Mm-hmm. Donc, on travaille beaucoup, parce que nous, l'objectif, c'est que la vitre, elle s'oublie. C'est ce qui, pour nous, la meilleure des technologies, c'est comme la clim, c'est qu'on s'aperçoit qu'elle est en panne quand on l'éteint. C'est là que c'est... On s'en rend compte.
Pourtant, vous êtes quand même assez... il faut vous voir dans tous les cas.
Il faut nous voir. Mais l'idée, c'est que l'échange qu'on a au travers la vitre soit le même que si on était physiquement face à face. Et donc, on a cette partie expérience utilisateur où on travaille sur le fait qu'il y ait le meilleur son possible, le fait de pouvoir échanger, se couper la parole, qui est quelque chose de très compliqué dans cette partie. Et puis, on permet aussi d'adapter le métier. C'est-à-dire que les Chanel, par exemple, avec les créateurs, ne vont pas utiliser les mêmes choses que dans la vente automobile.
C'est quoi la technologie que vous utilisez, justement ?
Ah ben, nous, c'est un logiciel propre qu'on a créé, qui s'appuie sur les standards du marché, sur ce qui s'appelle du WebRTC, mais qui nous permet de faire du point à point, c'est-à-dire aussi d'avoir le deuxième pilier, c'est la sécurité des données. Mm-hmm. C'est qu'on s'assure que les données passent d'une vitre à une autre. Et donc, on maîtrise nos clients et nous maîtrisons le bout de la chaîne, l'entièreté de la chaîne des données.
Alors j'en profite, on a la chance d'avoir Philippe Journeau toujours en plateau avec nous. Est-ce qu'on pourrait concevoir, par exemple, d'avoir ces vitres dans des passages à fort flux, dans les allées, par exemple, d'un centre, d'un retail park ?
Eh bien, c'est une de nos cibles. On a fait quelques essais pour ce qu'on avait appelé du drive to store, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai une boutique qui est à un certain endroit. Maintenant, on a des retail parks qui sont de plus en plus grands. Et dans les lieux de passage, en fait, d'avoir une vitre qui permet de faire son achat, entre guillemets. C'est-à-dire que je veux, je sais pas si c'est une boutique de téléphone, je veux une coque, mm-hmm. une USB, etc. Je vais faire mon achat avec le vendeur. Et puis, je vais aller le chercher à la boutique qui est un peu plus loin. Et le temps que j'aille le chercher, en fait, le paquet sera prêt. Ça me permet de faire du
aussi de l'achat en boutique directement.
En boutique, par exemple.
Alors justement, Philippe Journeau, c'est vrai que pour vous, l'expérience digitale, c'est primordial. Quel est votre regard, justement, sur ce type d'innovation ?
C'est évidemment un regard positif. Il faut toujours tenter. Il faut toujours tester. Il faut toujours innover.
Donc, vous testez, nous, vous, des solutions similaires ?
Tout le temps.
Et alors, que ça fonctionne ?
Oui, il y a celles qui fonctionnent, il y a celles qui sont trop tôt. Parfois, ça arrive. Ça arrive d'être trop tôt sur le marché et que les habitudes des consommateurs, qu'ils n'en voient pas, ils voient pas l'intérêt tout de suite. Et ensuite, 3 ans plus tard, ils disent c'est super. Mais ça nous permet, nous, d'avoir ce petit temps d'avance. Là, je vois les robots, on l'en voit pas à Paris, mais si vous allez à Miami ou à Los Angeles, vous allez en trouver partout dans la rue. Et je pense qu'effectivement, la technologie, c'est ce qui nous permet de, là encore, de mieux adresser nos clients. Donc on teste, on est très très preneur de ce genre de solutions d'expérience.
François.
Alors justement, vous parlez de Miami, les États-Unis. Est-ce que vous avez une ambition à l'international ? Comment vous voyez ce développement ?
Eh bien, en fait, là, on a un pilote depuis quelques mois au Canada, dans une gare multimodale, en fait, d'un réseau de transport. Ils ont plusieurs réseaux de transport là-bas. Donc là, c'est un pilote qui permet de. En fait, c'est une petite gare aujourd'hui, et ils n'ont aucun service client sur place. Et donc là, on apporte leur service client dans cette gare. Et du coup, on est en train de voir justement c'est quoi les retours, quels sont les feedbacks, etc. Et puis on a déjà quelques clients, en fait, sur d'autres verticales que l'on équipe de la solution.
Merci beaucoup. On passe tout de suite à l'actu de la semaine. Alors, on l'a appris il y a quelques jours, effectivement, Minelli, grande chaîne de chaussures françaises, ferme ses portes le 30 mai prochain, après plus de 50 ans d'existence. Ça nous fait nous poser une question, François. Est-ce que c'est la fin des marques patrimoniales ?
Alors, la fin, non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie grande difficulté en ce moment. Je dirais que depuis 3 ans, Minelli, c'est 3 redressements judiciaires, sans jamais réussir malheureusement à trouver la bonne formule. Et globalement, sur le marché de la mode, depuis 2019, c'est 20% des magasins, notamment dans les centres-villes, on en parlait tout à l'heure, qui ont fermé. Les causes de tout ça, c'est bien évidemment la fast fashion, mais aussi le très fort développement de la seconde main, type Vinted, et les coûts qui ont aussi fortement augmenté, les loyers, les coûts de transport, qui poussent plus vers le e-commerce que vers les boutiques elles-mêmes.
Est-ce qu'il n'y a pas un souci aussi de transformation ? Est-ce que Minelli aurait dû repérer un rebranding qu'il n'a jamais opéré finalement?
Oui, parce qu'on peut prendre des exemples à contrario qui marchent bien. Je citais Lacoste, qui eux ont réussi un rebranding qui était lancé en avril dernier, et qui se décline en s'appuyant aussi sur l'identité historique de la marque. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur cette histoire pour la moderniser et se repositionner globalement sur l'ensemble des leviers du mix et en le déclinant sur tous les canaux de distribution de façon très, très structurée. Je vous invite d'ailleurs à aller voir leur flagship leadership sur les Champs-Élysées, ces 1600 m² qui sont assez extraordinaires. Voilà, donc s'appuyer sur l'identité pour se moderniser.
Alors là, vous parlez de ce rebranding. Pour vous, donc, c'est un rebranding réussi. Cependant, il y a quand même des risques à se transformer, c'est de dénaturer finalement son ADN.
Exactement. Il y a eu une tendance depuis 2-3 ans, là, à ce qu'on va appeler une forme de minimalisme quand les marques essaient de se réinventer, avec des logos très, très épurés, avec des typos qui étaient vraiment timides, je dirais, peu de nuances de couleurs. Et à l'arrivée, ça peut amener des choses qui sont très trop fades et très trop proches entre elles. On peut citer Jaguar qui a supprimé le félin de son logo et qui, dans l'année qui a suivi, a perdu 25% de ses ventes. Et donc, j'y reviens. L'exemple de Lacoste qui, pour le coup, eux, ont réutilisé le logo historique et l'identité historique de la marque pour se réinventer.
Philippe, je vois acquiescer. Vous en avez vu des tas de marques essayer de se transformer.
Oui. En fait, toute la distribution, à part le luxe, ce sont tous nos clients. Donc, on est toujours très malheureux quand il y en a un qui chute. Mais d'abord, ça fait partie du cycle de la vie des affaires. Savez-vous qu'à 40 ans, l'espérance de vie d'une entreprise à 40 ans est de 1%. Ça veut dire que vous créez une entreprise aujourd'hui, il y a 100 entreprises qui se créent aujourd'hui. Dans 40 ans, il en restera une. Bon. Le deuxième élément, c'est qu'il faut s'adapter. Il se trouve que le cas de Millenie, je le connais bien, parce que mon grand-père et mon père vendaient des chaussures, étaient marchands de chaussures.
Mais quel est votre avis, justement?
Il y a un problème de créativité et il y a un problème aussi de non-adaptation à la mode. C'est-à-dire que Minelli, ça faisait des escarpins, ça faisait des chaussures de ville, etc. Vous avez aujourd'hui 80% des chaussures qui sont des sneakers. Le premier vendeur de vêtements en France physique, c'est Intersport.
Pour les hommes, en tout cas.
Pour les hommes, bien sûr. Et vous avez ensuite, de l'autre côté, vous avez effectivement la mode de la seconde main. C'est-à-dire qu'une chaussure un peu plus précieuse, que vous allez mettre 2-3 fois, vous allez faire de la rotation. Vous allez justement essayer d'en acheter une neuve dans un outlet parce que c'est moins cher. Et puis, Minelli, il y avait un problème de positionnement de marque. C'est plus assez une marque. Et au-delà, et c'est au-dessus de Chaussea, par exemple. Mais quand vous regardez ce métier, qui est très très difficile, la chaussure, c'est vraiment un des métiers les plus difficiles, eh bien, il faut être sur le produit en permanence. Chaussea, ce sont des gens qui se réinventent tout le temps. Et c'est ça le problème c'est un problème de créativité en fait à la base.
Merci beaucoup Philippe, on n'a plus de temps mais c'est vrai que ça aurait été très intéressant de continuer ce débat. Vous reviendrez pour ça en tant qu'analyste. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi dans la matinale de BFM Business. Excellent week-end à tous.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.